Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les... Ah bah Juliette.
Eh ben salut Charline.
Oui, bah alors ça c'est terrible, ça veut dire qu'ils m'ont tous abandonné là. Guillaume, il est pas là.
Non, enfin c'est comme tous les vendredis, Charline.
Et Alex, il est pas là.
Ouais, mais de toute façon on est mieux sans eux. Et puis moi je suis là. Et en plus on a un super invité.
Oui, alors heureusement, le philosophe Gilles Verviche, il a écrit un livre très instructif. Peut-on réussir sans effort ni aucun talent?
Eh ben je vais te dire qu'il y en a qui y arrivent très bien.
Ah, tu penses à qui?
Bah il y en a dans l'émission, on se demande à quoi ils servent.
Comment ça? Guillaume et Alex, tu
Mais j'aime pas dire du mal, mais enfin comme le propose Gilles Verviche dans son livre, on devrait faire un classement au mérite.
T'es sûre de ça?
Ah oui, oui, ah ouais. Regarde, Alex, le gars, il trouve de bref par-ci par-là, qui va pécho dans Presse-Océan.
Ouais, mais ça malgré tout un peu de travail.
Mais
quand
Guillaume,
même.
C'est pire. Ouais. Monsieur le grand reporter, tu parles, et Bourg-en-Bresse, et la Syrie, ouais, que dalle.
Non mais attends, Juliette, si je peux me permettre, je crois que t'as rien compris au bouquin, là, c'est pas possible.
Molo, hein? Polo, je te rappelle que je suis chroniqueuse littéraire.
Oui, ben pardon, mais t'as pas compris un beignet au propos du livre, là.
Mais pardon toi-même. Regarde, un exemple au hasard que j'ai bien compris. Mm-hmm. Il parle des gens qui se sont faits tout seuls, qui sont allés à l'école de la vie. Et bim, j'ai pris conscience. Pile comme moi.
Ah ouais, comme toi et comme Léa Seydoux, quoi.
Hein?
Non, mais je veux dire, ta mère, elle était prof de littérature, non? Elle était pas maçon.
Mais je vois pas du tout le rapport.
Bah, moi, je le vois, le rapport. Toi non plus, t'as pas de mérite, Juliette.
Ouais, eh ben, j'ai... Peut-être pas de mérite, mais j'ai dessin.
Ouais, d'accord. Putain, ça va être long, cette émission. Hein.
Et bim! Parce qu'en fait, j'en ai pas dessin, ouais. C'est ça qui est drôle.
Ouais, j'ai compris, ouais. Alex! Guillaume, revenez! Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up Émission, cette autoroute de la radio publique qui ouvre les barrières de l'information au péage de la blague. Et voici les trois tronçons d'actualité que nous emprunterons aujourd'hui. La loi anti-casseurs débattue à l'Assemblée nationale est calquée sur la loi anti-hooligan. Un article de SoFoot relève toutes les similarités et montre la bascule vers le tout répressif. Même par grand froid, le port de la cagoule en manifestation est désormais prohibé.
Je comprends tout, c'est toi, hein ?
Plaît-il ?
C'est toi, Fantomas ! Donne-moi ton masque, donne-moi ton masque.
La rémunération doit-elle être égalitaire ou doit-elle reposer sur la performance? Non, alors attendez, c'est pas ça du tout que je voulais dire. La rémunération doit-elle être égalitaire ou doit-elle reposer sur la performance qui nuirait à la rentabilité? Oui, selon des recherches récentes en sciences comportementales, rémunérer ses employés aux objectifs inciterait à la tricherie et à la manipulation, tandis qu'une rémunération égalitaire serait plus efficace. Et pourtant, le mérite, ça peut faire du bien, non?
Ah bah, si j'avais dû nourrir mes enfants selon leur mérite, ils seraient tous morts de faim.
Le site d'info BuzzFeed, qui était l'un des joyaux du miracle Internet, BuzzFeed licencie. Ça commence à serrer les miches à la Silicon Valley.
Regarde Steve Jobs, il a démarré dans son garage. Et ben moi je peux bien démarrer dans mon salon.
Eh, j'ai plein d'idées. La dernière, Catsme, l'application qui te donne l'âge de ton chat en lui photographiant les coussinets.
Et voici celle qui a transformé cette journée de préparation de l'émission en colloque de philo, en symposium, puis en banquet. Mais jamais en prise de tête, c'est Juliette Arnaud.
Ouh, bonjour Charline, bonjour tout le monde. Comme nous sommes vendredi, j'ai réuni une équipe Fridaywear. Elle n'est pas belle, elle est mieux, elle est zinzin. Tout d'abord Mélanie Bauer qui préférerait être empaillée plutôt que de commenter le top 50 et dont par extension le problématique ne sera jamais, jamais, jamais de savoir si on dit maître Gims ou Gims. D'ailleurs on ne dit plus maître. Alors Mélanie, de quoi on parle?
Aujourd'hui on va être sexy, hyper sexy, sexy en diable avec Bertrand Belin.
Oh, comme le gâteau. Ensuite, Christine Gonzalez, qui, telle une Freud dotée de pouvoirs magiques, s'introduit dans la psyché des morts sans leur demander la permission. Christine?
Ah bah aujourd'hui nous vous parlerons d'une méthode révolutionnaire.
C'est tout.
C'est déjà pas mal.
C'est pas mal, oui. Et enfin, Thomas VDB, dont la bizarrerie ne consiste pas à chanter des jingles, mais à avoir un ego ridiculement mesuré, l'ego hypertrophié étant la base du seul en scène, puisqu'il partage son affiche avec un chien.
Ouais, c'est vrai. Bon, alors, il n'y avait pas de questions, mais j'imagine que je vais vous raconter.
Oui, racontez-moi de quoi vous allez parler,
écoutez,
mais vite, par contre.
Écoutez, aujourd'hui, cette semaine, j'ai découvert une vidéo sur internet.
Avec un chien.
Je vous assure tout simplement une véritable petite régalade. Ça va être une régalade, on va parler de cette vidéo. Voilà, tout simplement.
Bon, bah alors on se régale à l'avance. Et pour finir, comme chaque vendredi, Frédéric Fromet, le sourire le plus assassin de la chanson.
Et voici celui qui sera le Diogène de l'open space. Autant vous dire que le tonneau s'est considérablement élargi. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer. Non, c'est l'open space.
Oui.
Vous êtes. Votre nom?
Gilles Verviche.
Ah, je voulais vérifier, je suis
France Inter, Charline Vanunacker.
par Jupiter.
Bienvenue Gilles Verviche.
Oui.
Vous êtes agrégé de philosophie.
Ça arrive.
Vous enseignez dans un lycée de la région parisienne.
Oui.
Et vous êtes connu pour vous appuyer sur la pop culture pour expliquer et développer les concepts philosophiques. Alors, vous avez notamment publié Star Wars, la philo contre-attaque.
Voilà.
Vous faites aussi des liens entre la philo et le football. Oui. Aussi la publicité avec quelques grammes de philo dans un monde de pub.
Voilà.
Et aujourd'hui, vous publiez « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» paru aux éditions Le Passeur. Juliette Arnaud, je vous laisse Gilles Verviche.
Oui, laissez-le moi.
Oui, encore un peu.
Alors, donc, c'est un livre qui s'occupe de déconstruire le mythe de la méritocratie. En gros, depuis la petite phrase de Macron sur les gens qui ne sont rien ou l'autre petite phrase sur les premiers de cordée, on a la sensation de vivre dans l'ère de la méritocratie. En gros, c'est quand on veut, on peut. Celui qui réussit, c'est parce qu'il le mérite. Mais est-ce que c'était pas déjà la doxa de Sarkozy? Si, alors, depuis quand est-ce qu'on baigne dans ce bain de mérite, Gilles?
Oh là. En fait, moi, j'étais parti effectivement de Sarkozy. Hein, tout au départ, quand j'avais voulu commencer à écrire le livre, j'étais parti de sa fameuse phrase « Je crois au travail, à l'effort, au mérite ». Pour moi, préciser que je crois au travail un peu. Enfin, je veux dire, Thomas, si on fait rien,
ça
se passe pas grand-chose. Si on reste allongé sur son canapé, il se passera rien. Je crois un peu moins à l'effort, parce qu'en fait, selon le talent des uns et des autres, on va pas arriver au même point. Il y en a qui ont besoin de faire moins d'efforts pour arriver au même résultat. Et je crois pas du tout au mérite parce que ça serait l'idée d'une récompense qui viendrait de on sait pas où pour récompenser donc ceux qui ont bien travaillé et qui ont fait des efforts. Voilà. Et effectivement, pendant que j'écrivais le livre, je l'écrivais à peu près fin de l'été. Début de l'été, Macron commençait à sortir une phrase par semaine et j'ai commencé à intégrer les phrases de Macron. Moi qui me paraissais vaguement de gauche à un moment, il y a 2 ans, je me suis dit... Il y a peut-être
au moment où vous avez voté pour lui?
Non, j'ai pas voté parce que j'étais radié des listes. Alors, ça c'est... J'ai déménagé, j'ai appris que j'avais été radié des listes.
Pareil.
Donc, de toute façon, j'ai pas voté. Et effectivement, donc j'ai intégré à un moment, j'écris dans le livre, on devrait faire un livre sur toutes les phrases de Macron.
Mais oui,
je me demande, c'est pas ce que je suis en train de faire.
Pour ouvrir le premier chapitre, qu'est-ce que le mérite? Vous donnez cette phrase, les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien,
voilà.
Prononcée le 29 juin 2017, donc il vient d'être élu, à l'inauguration de la station F en plus, donc start-up. Qui est le campus start-up créé par Xavier Niel. Emmanuel Macron évoquait la symbolique de la halle Fraissinet, lieu choisi pour un tel projet, une gare, et il dit, une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien.
Ouais.
Et ça, c'est venu vous énerver un petit peu?
Bah oui, comme je l'explique un petit peu, déjà, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Déjà, comme je le dis, on dirait une pub pour les lessives, hein, où t'as la salle de bain qui est très 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 sale. On se demande comment le monsieur et la dame, ils ont laissé, hein, ce que disait Coluche, laisser la saleté. Et puis une fois qu'on nettoie, c'est très très blanc. Donc pour lui, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Entre les deux, il y a rien. Alors que lui, ayant raté Normal Sup, il devrait savoir qu'on peut rater certaines choses. Ça veut pas dire qu'on va rater totalement sa vie.
S'il avait dit « et ceux qui ne font rien », à une lettre près.
Bah qui ne font rien. Bah déjà, on retournait aussi sur cette idée de la méritocratie où si vous êtes pauvre, c'est que vous avez rien fait, c'est que c'est de votre faute. Ce qu'il disait un peu dans la phrase, un travail, je traverse la rue, je vous en trouve un quoi.
Mais ça, c'est antérieur à Sarkozy ou c'est vraiment Sarkozy qui l'a remis au goût du jour?
Bah c'est Sarkozy qui a quand même remis au goût du jour le travailler plus pour gagner plus. Mais après, ce que j'essaye de raconter dans le livre, le petit historique de la valeur travail justement comme étant ce qui justifie que certains aient plus que d'autres, ça remonte, je cite le sociologue Max Weber, ça remonte en fait 16e, 17e siècle.
C'est un peu la photo protestant.
Voilà, exactement. D'ailleurs, Macron lui-même le reconnaissait quand il a été voir les Danois en disant ce peuple luthérien. Voilà, donc en fait, le travail comme valeur de la possession des inégalités sociales, ça remonte un peu à cette renaissance 16e, 17e siècle. Après, c'est vrai qu'on est rentré dans une idéologie... ce que Sarkozy lui-même appelle l'éthique du capitalisme, voilà, qui est devenu aujourd'hui tellement prédominant que tout le monde il est fondu sans même s'en rendre compte. Quoi. On l'accorde, on trouve que la méritocratie, c'est bien, c'est juste. Okay. Voilà.
Et alors, ce livre, alors, outre votre capacité effectivement à parler également de pop culture, c'est-à-dire à passer sans aucun problème de Machiavel à Star Wars, par exemple,
il y a une
chose qui est assez agréable, c'est que moi, quand j'ai lu, ça m'a fait l'effet de lire le bouquin d'un mec vénère. Ou plutôt d'un philosophe qui se prend un coup de chaud et qui se mouille, lui directement. Effectivement, il y a des phrases qui commencent par « Moi, je crois peu au travail. Je crois peu un peu moins à l'effort. Enfin, je ne crois pas du tout au mérite. » Et puis, j'arrive à la page 126 où vous démontez extrêmement violemment le mythe du môme précoce. Et je vous cite « Si un enfant bavarde répond à la maîtresse et harcèle ses camarades, ce serait parce que la classe ne serait pas adaptée pour lui. Il s'ennuie parce qu'il est précoce, voire surdoué. Mais si un gamin est insupportable, n'est-ce pas tout simplement parce qu'il est insupportable et mal élevé. »
Voilà, ça on le vit un peu partout. C'est la mode des enfants précoces en ce moment. Dès qu'un enfant, il y en a dans la classe de ma gamine, hein, donc il est insupportable. Et donc les parents se demandent s'il ne faudrait pas le faire passer une classe.
Parce qu'il
doit être surdoué s'il est chiant. Mais ça, c'était pour réagir parce que je cite Einstein. Vous avez vu que c'est la couverture. Je parle pas mal d'Einstein dans ce chapitre pour montrer qu'effectivement, lui-même a raté ses études. Et il y a la fameuse phrase d'Einstein qui est reprise dans les mêmes Facebook. Tout le monde est un génie, mais si vous demandez à un poisson de savoir monter aux arbres, il passera qu'il est idiot. Je voulais un peu nuancer la phrase « tout le monde est un génie ». Enfin, c'est pas non plus, je veux dire, critiquer la méritocratie, c'est-à-dire la justification des inégalités sociales. C'est pas non plus dire « nous sommes tous égaux face au talent », etc. Et effectivement, voir des enfants précoces partout, voilà.
Gilles Verviche. Son livre s'intitule « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» sous-titré « Les mirages du mérite » avec en dessous Einstein, version Warhol, en quatre couleurs, voilà. En quatre portraits, édition Le Passeur. Hey, dites donc, c'est le retour de Balthazar ! Entertainment ! Ouais, bien sûr. Baby, if you want it, no one gonna let you know. Right when I thought I had a chance to turn out, I was too slow, another blood loss. Just another one of those tricks you used to turn me in. Well, it changes what I do. Maybe it changes what I am. Right when I'm sure I know what I think of you, it changes back again. Nothing but love, nothing but sin. Entertainment's what I'm gonna need to make you mine again. Balthazar et un extrait de leur nouvel album qui est déjà disponible. On a écouté Entertainment, vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter en compagnie du philosophe Gilles Verviche qui nous parle d'effort, de mérite, de talent. Peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Alors restez avec nous, vous allez le savoir. Autour de la table pour entourer Gilles.
Eh bien, Mélanie Bauer et puis ensuite, ça sera Christine Gonzalez et enfin, pour finir en trompette,
Tom avait des
bébés. Et oui, et justement, en l'absence d'Alex Vizorek, qui est à Bruxelles, qui arrive à le présenter les Magritte du cinéma samedi soir sur la RTBF, je m'apprête à faire le journal d'information avec Thomas VDB.
Et ça, c'est là
c'est... Ouais.
Attends,
non,
ouais.
Attendez, c'est ceux-là.
Bonjour. Qui est là?
Le journal de presque 17h17.
Mon hologramme est heureux de vous retrouver.
Justement, on se concentre, Et alors, on commence par les titres.
Oui, alors, et comme la, bon, alors comme justement la dernière fois, comme j'avais pas préparé des titres, et bien là, j'ai préparé plein de titres. Et c'est même les meilleurs titres. Alors, il y a du David Bowie. J'ai ramené un morceau de Bruce Springsteen, qui est sur un de ses hits.
Thomas, parce que je parlais des titres du journal, en fait. Les titres, c'est du journal.
Mais non, mais vous ne m'expliquez pas bien aussi. Alors, vous n'avez pas précisé.
Non, mais ça va. Vous avez quand même des brèves ou pas?
Alors, je n'en ai pas, mais je vais en trouver. Alors, vous inquiétez pas. Alors,
pendant le journal, vous allez trouver des brèves.
Voilà, je pense que je vais me débrouiller pour en trouver quelques-unes.
Ouais, allez, super, allez. Alors. Bon, concentrez-vous.
Papier, du coup.
Politique. Édouard Philippe a déjeuné ce midi à Bordeaux avec Alain Juppé.
Apparemment, oui. Mais attendez, je comprends pas bien.
Qu'est-ce que vous comprenez pas dans cette phrase, quand
même. Parce que je les confonds un peu, Édouard Philippe et Alain Juppé. Et même, c'est idiot, mais au bout d'un moment, je m'étais demandé si c'était pas la même personne. parce que Puff Daddy, vous savez, le rappeur, il est devenu P. Diddy. Et je me demande, est-ce que vous êtes sûr de votre info?
Oui.
Non, mais vérifiez quand même.
Vous êtes pas en train d'essayer de gagner du temps, là, par hasard?
Allez, on enchaîne. On y va. Sur les news.
La France envisage de rapatrier 130 djihadistes français. Édouard Philippe a dit préférer les savoir condamnés en France plutôt que dans la nature.
Oui, et ça, je trouve, c'est bien. Parce que c'est vrai que c'est quand même nos djihadistes. Et on se les garde pour nous. Les vrais djihadistes du terroir français. Et j'ai envie de dire presque cocorico. Cocorico, je sais.
Européenne, à présent, le Rassemblement National et La République En Marche sont en tête des intentions de vote.
Et je ne suis pas convaincu par ce remake des présidentielles. Oui. Déjà, l'original, j'étais pas fan. Mais alors là, j'ai presque peur.
Candidat pour la troisième fois consécutive à l'Académie française, Luc Ferry n'a pas été adoubé par ses pairs.
Il va y arriver, Luc Ferry. Bon, ce qui est vrai, c'est ce qui est pratique, c'est que maintenant, il connaît bien le programme. Ouais. Donc l'année prochaine, je pense qu'il va y arriver.
SNCF, environ 260 passagers passent quasiment la nuit dans un TGV entre Paris et Lille.
Et là, c'était la belle idée de la SNCF qui n'est jamais à court d'idées de se lancer dans le Airbnb, finalement. C'est vrai que ça va être bien. Alors, par contre, ce serait bien de prévenir les clients avant. Ça, c'est une astuce que je leur
recommande. Merci pour cette astuce, ce service public. Science, selon une étude relayée par la revue Intelligence, le QI des Français serait en chute libre.
Oui, mais alors je me disais quand même que ceux qui sont abonnés à une revue qui s'appelle Intelligence, ils pourraient s'abonner au magazine Modestie aussi, je pense, peut-être.
Oui, on est content d'avoir votre avis. Merci. Consommation, le régulateur de l'énergie a proposé une hausse de 6% des tarifs de l'électricité.
Eh ben, c'est pas ça qui va faire baisser la tension dans le pays.
Vous voyez, j'ai pas la blague, là.
Non, mais la tension, par rapport à l'électricité, la tension à l'électricité. Bon, j'enchaîne. Ouais, j'enchaîne. Essayez de réagir aussi. Alors j'enchaîne, Loire, ils retrouvent une vache dans leur piscine.
C'est une info, ça?
Non, c'est fou, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une piscine dans la Loire, quand même. Ça n'a quand même aucun intérêt, c'est vrai.
Les brèves,
je me remarquais une chose, c'est comme nous n'avons pas rendu hommage à Michel Legrand cette semaine, je propose de mettre les brèves en musique, comme dans les films de Jacques Demy, qui en a eu pas mal.
Ça, c'est rendre hommage à Michel Legrand, ça.
Allez, on y va, c'est les brèves en musique.
Okay, allez, c'est parti.
On est aux États-Unis, un petit garçon avait disparu, il a disparu pendant 3 jours.
Michel Legrand, c'est le grand blond, c'est Vladimir Cosma, enfin.
Ah oui, mais ils se connaissent tous les deux.
VDB, taisez-vous. Juliette. Oui, Juliette, on va rattraper le coup parce que c'est hommage à Michel Legrand quand même.
C'est quand même bien.
Dans le Finistère, il est contrôlé par les gendarmes.
À 161 km/h, au lieu de rouler à 70.
Mais il se justifie en disant j'ai peur de caler.
Ça devait être une femme qui avait ses règles.
Merci. Ça marche pas mal, hein?
Non, on a le droit, on est des femmes.
On peut peut-être essayer un autre truc pour terminer? Allez.
Ivré sans permis, il prend le tunnel à contresens.
Dans une voiture volée, c'était un Belge évident.
Hein? Non, arrêtez ça. Non, mais ça va pas du tout, Juliette, vous rigolez ou quoi? Ça suffit,
c'est pas ma faute.
Non, mais attendez, mais ça va. Moi, je fais l'effort de bien chanter. Et puis derrière, là, ça fonde. Ah, c'est bon, allez, hop, on termine. Allez, hop, c'est bon. Allez, bon, allez, Alex revient lundi, parce que sinon, ça, c'est foutu, cette séquence. 17h26 sur France Inter, excusez-nous, Gilles Verviche est avec nous, agrégé de philosophie.
Et d'origine belge aussi.
C'est pas vrai, avec un nom pareil, mon vieux, évidemment. Merci de m'avoir DB.
Ah bah, c'est rien, j'ai quand même bien bossé.
Il range ses titres.
Je remballe mes CD. Mes compacts.
Il est 17h27 à Bois-Guillaume, c'est près de Rouen.
Voilà, c'est là où je suis né.
Ah bah voilà. Bois-Guillaume. Et Bois-Juliette, ça n'existe pas, par contre.
Non, mais ça devrait.
Voilà, très bien.
Je crois qu'Hollande est née là aussi.
Ah, c'est vrai ?
Ah, Bois-Guillaume.
Ah, Bois-Guillaume. Ah, allez, ils ne se sont pas foulés à La République En Marche pour la loi anti-casseurs, parce qu'ils ont repris une mesure déjà de droite. Et en plus, ils ont fait un copier-coller de la loi anti-hooligan, apparemment. Selon un article paru hier sur SoFoot, les deux lois se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est vrai, le Premier ministre l'a revendiqué lui-même. Mais comme la loi anti-hooligan a basculé dans le tout répressif à l'époque, on a des raisons d'être inquiets pour la loi anti-casseur. Et la vraie question, c'est comment reconnaître ?
Pas de plus du casseur. Prenons un fond neutre, puis un mec neutre, avec un regard vide. Rajoutons les cheveux longs. Le t-shirt moulant, c'est du 12 ans. Le caleçon, le futal trop grand, c'est du 92 ans. Une vraie fausse dent, l'air con, aïe, tu peux casser maintenant.
Aïe, c'est Brice Denis, de et avec Jean Dujardin. Alors le gouvernement fait un petit peu comme vous, j'ai l'impression, Gilles Verviche, vous faites le lien entre football et philosophie pour expliquer les concepts philosophiques. Là, le Premier ministre vous pique le truc en disant bah, « Très bien, la loi anti-casseurs, on va faire comme pour les hooligans. Ouais. » Et d'ailleurs, SoFoot écrit « Ce n'est plus le foot qui est le reflet de la société, mais la société qui est devenue un stade. » Est-ce que vous reconnaissez, enfin vous cautionnez cette phrase, ce constat?
Oui, j'ai trouvé intéressant le rapprochement, ça m'a fait penser à la société du spectacle de Guy Debord que personne n'a lu. Moi, j'ai essayé de le lire.
Moi, j'ai lu le titre.
Voilà, tu vois, c'est pas mal. Hein.
Je l'ai relu. Même.
C'est assez lisible, mais il montrait. Enfin, je sais pas, vous connaissez la fameuse théorie du pain et des jeux où finalement on emmène les gens au stade pour les détourner de la politique et donc au foot se jouent finalement des fausses luttes, quoi. On permet aux gens de se défouler un peu de leurs difficultés sociales en allant crier après une équipe ou contre une autre. Et là, rapprocher finalement, faire une loi anti-hooligan qui est, enfin, une loi anti-casseur qui est inspirée des lois anti-hooligan, ça fait un peu prendre les manifestants pour effectivement des supporters, comme si la fausse bataille sportive, qui était en fait un divertissement, ressemblait à la vraie bataille quand même politique des manifestants. C'est quand même réduire un peu le sens et la valeur de leur combat. C'est de dire finalement tout ça n'est qu'un jeu et on peut le traiter à peu près de la
mais
même manière.
Est-ce que les casseurs ne réduisent pas la valeur de leur combat en cassant aussi? Je fais Alex Vizorek.
Ça m'a fait très étrange.
Je sais, mais après,
les casseurs, je pense qu'effectivement, les casseurs sont un peu comme les hooligans. Il y a peut-être une minorité qui casse, mais en tout cas, les gilets jaunes eux-mêmes. Enfin, on voit bien que l'idée, c'est quand même de réduire un peu le combat des gilets jaunes à une bande de supporters qui auraient certains éléments perturbateurs qu'il faudrait.
Sur l'intention.
Puis la loi anti-casseurs, en plus, c'était. Enfin, la loi anti-hooligan, c'était du coup interdire l'entrée du stade à certaines personnes. Là, ça veut dire plus ou moins interdire la rue à des manifestants, ce qui consiste à dire à peu près que les manifestations seront interdites, quoi.
Et pour revenir sur ce lien entre le sport, la politique, la philosophie et votre ouvrage sur le mérite et le talent, on en parle de cette demi-finale France-Belgique à la Coupe du Monde où peut-être le mérite n'a pas été reconnu. Est-ce que le vainqueur est forcément le méritant? C'est la question de votre.
Moi, je suis comme je disais à mes élèves, si heureusement que mon grand-père a émigré en France, sinon j'aurais perdu la Coupe du Monde.
Rapidement, Juliette.
Oui, parce que vous le dites dans votre. Vous parlez du sportif, le meilleur. C'est-à-dire qu'il mérite sa victoire. Allez donc raconter ça aux Belges, aux joueurs et supporters belges ou croates qui ont été battus par l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de foot en 2018.
Voilà. On dit toujours au sport, c'est le meilleur qui gagne, mais. Par définition, c'est le meilleur qui gagne, mais finalement. Ce que je veux dire, on peut être récompensé.
Mille fois,
oui, c'est ça, j'allais partir là-dessus.
On vrai que c'était la fin de la phrase. On peut être récompensé.
Non, je vais pas y arriver, mais effectivement...
Il suffit de vous lire. Et par exemple, pour répondre à cette question en sport, dans le 100 mètres, est-ce que c'est vraiment celui qui franchit la ligne, le premier, qui mérite la victoire?
Non, mais peu importe, celui qui gagne, c'est pas forcément celui qui a fait le plus d'efforts. Et notamment, quand on embauche un joueur de foot, on se demande pas si c'est celui qui mérite, par ses efforts et son travail, d'être là. On prend simplement celui qu'on pense être le plus capable de battre l'équipe adverse et c'est tout, peu importe les efforts. Enfin, voilà.
Et voilà pour le livre de Gilles Verviche, là on est en plein dedans, édition Le Passeur. passeuse de musique, elle, Mélanie Bauer.
Philosophie toujours. Selon la philosophie du grand Yann Moix, je dois l'avouer, il y a très peu d'hommes de mon âge que je trouve véritablement sexy. Je vais pas vous en faire la liste, hein, mais dans le monde merveilleux des chanteurs, il y en a un, c'est Bertrand Belin. Alors on s'attarde toujours sur la partie sexe du mot sexy, mais le mystère de cet adjectif réside plutôt dans son Y, qui, comme chacun sait, se prononce en anglais why. Why qui pose la question, pourquoi Bertrand Belin est-il sexy? Il y a chez lui ce côté raide du Y, un peu penché dans son allure, mais bien planté dans la terre, et qui laisse pourtant deviner une certaine souplesse des hanches, résultat d'années de travail de rocker. Et puis, il est breton. Ils sont irrésistibles, les bretons. Ils sont bourrus, festifs, ils ont le goût du sel imprimé dans leurs gènes. Ils font l'économie des mots, alors ça cause pas un breton, ça tranche.
Petit à petit, petit à petit, petit à petit, l'oiseau fait son bec.
Petit à petit, l'oiseau fait son bec. Tout est dit.
C'est tellement vrai.
Petit à petit, le chanteur cisèle sa parole. Sa bouche chante, mais elle pique aussi, découpe, picore. Il se sait tout petit dans l'immensité du monde, l'oiseau, la proie, mais il ne se tait pas. Pour autant, l'oiseau utilise sa voix pour prévenir du danger, mais l'utilise aussi comme arme de séduction. La voix de Bertrand Belin est tout en pudeur, en économie, ronde au service des mots, tel un Bachung qui écrirait ses propres textes. Bertrand Belin roucoule une poésie du recul, regarde le monde du haut de sa branche, tantôt amusé, tantôt contrit du tapage des mammifères.
J'ai travaillé à travailler. J'ai travaillé à travailler pour un travail.
Il travaille, Bertrand Belin, sur ce nouvel album Persona. Il joue les guitares, la basse, le piano, les claviers, arrange les violons, écrit les textes et la musique. Et puis, comme si ça suffisait pas, il sort aussi un livre, son troisième roman, Grand Carnivore, des fauves échappées d'un cirque qui envahissent la ville. Des phrases courtes, là encore, sa marque de fabrique, le mot juste. C'est sexy aussi, un homme qui écrit. Oui, vous aussi, hein. Et ça a le charme.
Merci.
Ça a le... VDB, non, non,
je crois que c'est moi qui disais ça.
Il écrit pas, lui parle.
Ça a le charme d'un autre temps, la plume. D'ailleurs, en musique, sur ce disque, il y a parfois une temporalité un peu désuète des claviers vieillots, presque cheap, du siècle dernier, qu'on trouverait ringard pour n'importe qui. Sauf que c'est lui, alors bien sûr, c'est sexy.
En rang, dès le matin, les efforts sont déjà fournis.
Oui, c'est sexy quand il raconte les clodos, la solitude, la routine, la violence de nos habitudes sociétales, le manque d'amour des grands fauves que nous sommes élevés à être. Alors, vous me direz peut-être que si je suis célibataire encore à mon âge, c'est peut-être parce que j'ai le goût de l'homme mal placé, que je devrais plutôt me tourner vers des valeurs plus commerciales, une sensualité plus fleur bleue, des chanteurs à minette. Mais bon, quand même. Le grand breton, un peu penché, c'est tout de même sexy.
Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. On annonce un été de canadaire, de ciel embrasé de canadaire. Madame, monsieur, glisser dans la diagonale sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou. J'ai glissé dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don.
Qui sera en concert sur France Inter le 20 février, qui sort ce nouvel album Persona.
Merci Mélanie Bauer.
De rien.
Vous écoutez France Inter, cet endroit où ceux qui réussissent croisent ceux qui ont du mérite et ceux qui ont du talent. Car c'est le philosophe Gilles Verviche.
Et ceux qui ne sont rien.
Est avec nous Gilles Verviche et la notion de mérite et de talent, on va en reparler tout de suite. En attendant, 17h39 sur Inter, Christine Gonzalez, notre médium, est là. Ça va Christine, parce que je vous sens un peu contrariée.
Non, ça va.
Non, mais il y a quelque chose là.
Non, mais un truc, mais je vais pas en parler à la radio, c'est ridicule.
Bah si, bah dites-nous.
Ouais,
bah, si.
Mais c'est un truc tout con, mais j'y tenais, mon GPS est mort ce matin et ça me fait quelque chose, je l'aimais bien.
Je vais bien, Christine. Je repose en paix.
Non, c'est vrai?
Oui, maintenant, arrête avec tes conneries et commence ta chronique.
D'accord, alors je commence. J'aimerais vous parler aujourd'hui de matérialisme. Cette attitude qui nous attache pathologiquement aux objets et aux plaisirs matériels. En fait, notre époque nous indique le contraire, qu'il faudrait se débarrasser, aller à l'essentiel, au minimalisme. En fait, il faudrait être japonaise et s'appeler Marie Kondo. Vous connaissez Marie Kondo ?
Oui.
Elle est géniale. Elle a vendu des millions de livres à travers le monde avec sa méthode, la magie du rangement, où l'on apprend comment organiser son intérieur, se débarrasser du superflu, comment trier, plier, ranger. Et là, elle cartonne sur Netflix en allant faire du tri et de l'ordre chez des inconnus un peu bordéliques comme VDB avec ses pulls moches. Figurez-vous que Marie Kondo cartonne également dans l'au-delà. D'ailleurs, cette musique que l'on entend vient de là-haut. On est dans la dernière demeure de Romy Schneider. Romy, je vous dérange ?
Non, du tout.
Ah, et là, vous êtes en train de regarder un épisode de Marie Kondo sur Netflix?
Oui, mais oui, comme tout le monde.
Est-ce que vous pourriez éteindre votre télévision, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, la méthode Marie Kondo connaît aussi un grand succès dans l'au-delà, Romy Schneider. La première saison a cartonné.
C'est un énorme succès. Beaucoup de gens l'ont déjà vu deux ou trois fois.
Mais vous, personnellement, comment avez-vous fait le tri dans votre armoire?
C'était un peu subconscious, comment dit-on? C'était
subconscient.
Je ne réfléchissais pas, je faisais les choses et ça n'était pas faux, c'est comme ça.
Et là, vous êtes en train de plier vos vêtements.
Ah oui?
Comme ça, vous permettez aux vêtements de s'imprégner de votre énergie.
C'est exactement ce que vous dites, oui.
Et désormais, vous êtes heureuse après avoir fait du tri. Vous voyez plus clair dans votre esprit?
Très heureuse, oui, je suis fière aussi. Ça, c'est comme renouveler la batterie.
Ouais, comme quoi la mort, c'est super aussi.
La mort? Je pense que c'est le meilleur moment dans la vie d'une femme.
C'est bien ce qui me semblait. Dites, Romy Schneider, je vois que vous n'avez pas trié vos chaussures apparemment.
Non, ça m'emmerde.
Mais est-ce que...
Excusez-moi.
D'accord.
Okay. Tu vois pas que tu l'emmerdes ?
Oui, c'est bon, j'ai compris.
Va plutôt voir l'autre taré du rangement.
Qui ?
Claude François.
Clo-Clo ?
Arrêtez de m'appeler Clo-Clo, maintenant c'est Monsieur Claude, enfin un truc dans ce coup-là.
Donc vous êtes en train de faire du tri ?
Oui, oui, j'en fais bien sûr.
Mais vous êtes connu pour votre maniaquerie, ça doit pas être si compliqué que ça ?
C'est au-dessus de mes forces.
C'est-à-dire ?
L'angoisse.
Et qu'est-ce qui est angoissant ? Devoir jeter certaines vestes à paillettes qui ne servent plus à rien ?
Non, ça c'est une de mes grandes faiblesses, si vous pouviez m'aider.
Bon, écoutez, c'est simple. Marie Kondo, je connais par cœur. Marie Kondo vous dirait de prendre l'une de vos vestes dans vos mains, allez-y.
Oui.
Est-ce que cette veste vous procure du bonheur ?
Non, c'est vraiment là. La chose la plus vague qui soit le bonheur, ça commence où, ça s'arrête où?
Bon, alors peut-être qu'il faut pas commencer par les vestes, on va trier autre chose. Qu'est-ce que vous collectionnez un peu trop?
Très honnêtement, je suis très porté sur le... sur les jeunes filles, donc c'est très agréable. Et puis
ah oui,
quand je peux en rencontrer une, etc., c'est vraiment des choses qui, oui. qui de toute façon, je dis la vérité, qui me plaisent.
Non, vous collectionnez les jeunes filles.
Oui.
Non, là, je peux rien pour vous. Vous entrez en collision avec mes valeurs, c'est pas bon pour mes chakras, là.
Écoutez, je vais vous définir cette situation.
Quoi ?
C'est lamentable.
Mais c'est vous qui êtes lamentable.
Christine, mon bébé, laisse tomber.
Oh, toi, ça va, ça ta gueule.
C'est comme ça, je me fais harakiri.
Donc, je vous le disais, Charline, la méthode Marie Kondo est un carton, dans l'au-delà également, car elle procure sérénité, joie et confiance.
Merci Christine Gonzalez, toujours avec les archives de l'INA.
Romy Schneider dans Radioscopie en 1970 et Claude François à 73.
Merci beaucoup.
Qu'on préfère oublier pour toujours, évidemment.
Et on rappelle que ce soir à 21h, sur la radio-télévision suisse, la première,
Question Q,
votre émission de radio.
Oui, on parle d'infidélité des femmes.
Ah, très bien.
Ça n'existe pas.
Oui, voilà. 17h43 sur France Inter, le philosophe Gilles Verwisch est avec nous. Et on va parler de cet autre sujet dans les entreprises qui privilégient la rémunération à la performance plutôt que la rémunération égalitaire. Mais les chercheurs ont observé que cette recherche de la perf nuit à la productivité. Pourquoi ? Parce qu'elle incite à tricher, à dissimuler des données, à garder des infos, puisque le collègue devient le concurrent.
Tom, est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce que représentait la somme totale de ton existence ?
Mais qu'est-ce que tu veux dire ?
Ce que je veux dire par là, Jérôme, c'est que le plus court chemin pour arriver à la réputation, c'est celui des mérites. Je veux que tu jettes un œil là-dessus.
Qu'est-ce que c'est ?
Et c'est l'avenir de Pégase. Je voudrais que tu le montres à ton beau-père.
Mais attends, pourquoi tu lui donnes pas toi-même ?
Parce que des mérites, Jérôme, on te laisse pas toujours le droit d'en avoir.
Les Portes de la Gloire, le film de Christian Meret-Palmer, co-scénarisé par Benoît Poulvorde. Et c'est un article que nous avons trouvé sur Slate.fr. Alors Gilles Verwisch, l'entreprise, la société, les politiques, on en a parlé au début de cette émission avec Juliette en lisant votre livre, nous ont fait intégrer la notion de mérite. Alors une fois qu'on a pigé que le mérite pouvait nous aider à gagner plus, etc., est-ce qu'on a tendance à essayer de le jouer peut-être, à singer la chose pour essayer de, si on est payé à la, si la, on est payé à la performance, de surjouer la performance.
Oui, c'est ce que me disait une fois un proviseur de mon lycée qui avait un peu du mal à monter en grade et qui disait que finalement ceux qui montaient en grade, c'est ceux qui étaient au rectorat en train de serrer des mains et de manger des petits fours, et que ceux qui faisaient vraiment leur boulot, on les voyait nulle part. Donc il y a un peu l'idée que ceux qu'on voit vraiment en train de faire quelque chose, c'est que sans doute ils font pas grand chose, et que ceux qui sont vraiment en train de travailler, par définition, on les voit pas, hein. Mais ce qui m'avait un peu étonné dans ce, enfin pas étonné, mais ce qui m'a plu dans ce rapport, que effectivement le salaire ou la prime à la performance nuisait finalement à l'entreprise, c'est que on revenait un peu sur cette idée qu'on trouvait chez Adam Smith, que si chacun poursuit son intérêt particulier, ça va servir l'intérêt général, et que c'est en motivant chacun avec l'argent qu'il va gagner. Et puis on se rend compte qu'en fait c'est-à-dire que dans les entreprises aujourd'hui, on parle pas de salariés, on parle de collaborateurs, les collaborateurs, comme si tout le monde collaborait, alors que là on voit bien qu'on les met tous en compétition. Il y avait un film, je crois, de Costa Gavras, je sais plus le couperet, où on voit que voilà, c'est un peu par la peur qu'on gouverne, parce que voilà, si je suis pour être le plus performant, ça veut dire que je vais essayer de passer au-dessus des autres. Enfin, je vois pas bien en quoi il y a de la collaboration là-dedans, et c'est ce qui se reflète un peu dans notre société. C'est ce que j'évoque un petit peu dans le livre, où quand on parle de mérite, il y a l'idée qu'il faudrait des gagnants et des perdants comme dans un sport, et que la société devient une société de compétition, et on se rend compte que c'est pas forcément, hein, quand Macron parle du premier de corsée, il y a l'idée que les premiers, donc en poursuivant leur intérêt, vont aider tout le monde et que ça va profiter à tout le monde, et là on se rend compte que finalement ça profite même pas à l'entreprise elle-même, quoi.
La suite dans « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» paru aux éditions Le Passeur. Chers amis, c'est le moment du retour de Thomas VDB. Dites donc, on est émus.
Effectivement, je suis là. Alors vous savez, moi je pense que dans la vie, on a tous des choses, des petites choses qui nous font chaud au cœur. Moi cette semaine, par exemple, j'attendais beaucoup de la tempête de neige Gabriel. Je disais, ouais, on va faire de la neige toute la semaine. Alors, Gabriel m'a beaucoup déçu quand même. Hein, c'est vrai, je vois pas trop l'intérêt de donner des noms aux chutes de neige si la neige ne tire pas plus d'une demi-journée. Hein, parce que là, il y a une averse dehors, on a qu'à dire que c'est Jean-Jacques aussi, si on veut. Hein, voilà, bon. Alors la neige n'ayant pas tenu, moi je pensais que ma semaine elle allait être morose. Et alors là, figurez-vous que avant-hier soir, sur internet, je tombe sur une vidéo de Laurent Wauquiez et Éric Zemmour,
ah, bah oui,
qui sont en train de parler tous les deux. Et alors je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais la découverte, moi, de cette vidéo, je vais pas vous mentir, m'a redonné espoir en l'existence. Hein, vraiment, j'ai cette impression de goûter presque au sel même de la vie. Hein, parce que je me dis finalement, on peut pas faire de la luge, mais il y a quand même peut-être moyen de déraper cette semaine. Mais c'est ça qui est bien. Et en même temps, je me dis, je découvre cette vidéo, je peux dire, c'est vrai, je me dis, c'est fou, parce que je sais que je vais mal dormir, parce que je vais avoir envie de la regarder toute la nuit, cette vidéo. Parce que c'est comme quand on a un nouveau jouet, on a envie de se relever la nuit pour jouer avec, évidemment. Alors, dans cette vidéo, on voit donc, Wauquiez parler avec Éric Zemmour. Alors, il n'y a pas de public, c'est juste un plateau, c'est pas un plateau télé, c'est même pas un meeting, ils sont dans une espèce de petit salon, tous les deux. C'est une ambiance vraiment hyper intime, presque lounge, hein, vraiment une sorte de chill out de droite. Et vraiment, ils sont en train de parler du livre de Zemmour, et apparemment, Wauquiez a lu le livre de Zemmour et il est en train de dire à Éric Zemmour tout le bien qu'il en a pensé. Et vraiment, il lui explique comment il a tout compris ce qu'il y avait dans le bouquin. Et pendant 1 minute 20, vraiment, la vidéo ne montre qu'une seule chose de Laurent Wauquiez et Éric Zemmour, c'est combien ils sont d'accord. Ils sont vraiment d'accord sur tout. Vraiment, c'est le seul sujet de la vidéo, c'est qu'ils pensent exactement la même chose. Allez, juste pour se faire plaisir, on écoute un petit passage de la vidéo.
Écoute, dans ton livre, il n'est pas si facile que ça.
C'est ça. En fait, c'est d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça. En réalité, il est très facile à lire. Parce que c'est une succession de chapitres.
Ouais.
Mais il faut beaucoup aimer l'histoire et bien la connaître.
Voilà, c'est ça.
Parce que tu vois passer le truc très très vite.
Voilà,
c'est-à-dire en 4-5 pages, tu as des condensés de changements,
ouais, c'est ça,
de ce qu'est toute l'histoire qui va très vite.
Voilà.
Et donc, si t'as pas un minimum le background, tu peux être un peu saisi.
Voilà, c'est ça.
Ben ouais, c'est voilà. Ça. Et ça, c'est important. Ben ouais, c'est ça. T'as tout. Ben ouais, c'est ça. Et surtout, t'as fait du bien d'entendre Zemmour acquiescer. C'est vrai qu'il acquiesce beaucoup, hein, quand même. C'est presque une vidéo entièrement sur l'acquiescement. Et je me dis, finalement, sur YouTube, aucune vidéo sur YouTube peut montrer autant deux personnes qui peuvent être autant d'accord, j'avoue. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de vidéos de Charline, Vizorek ou moi qui rions aux conneries de Guillaume Meurice sur Macron. Mais c'est pas pareil, c'est des blagues. Hein, et puis, ils font pas des blagues, Wauquiez et Zemmour. Hein, enfin, ils font des blagues, mais ils sont pas courant. Voilà, et donc c'est Laurent Wauquiez qui a posté cette vidéo sur son compte Twitter. Alors apparemment, je me dis, il avait aucun problème avec l'idée que ces images soient vues. Hein, on se demande vraiment comment ça marche dans sa tête à lui. Et il a commenté donc cette vidéo en mettant comme ça, toujours un plaisir de débattre avec Éric Zemmour. Alors d'accord, mais quand même, normalement je précise, quand tu débats, t'es pas d'accord normalement. Hein, c'est vrai, parce que là vraiment c'est le contraire d'un débat. Hein, il aurait pu marquer quand même, toujours un plaisir de pouvoir tchatcher avec Éric Zemmour. Hein, toujours un plaisir de tchatcher avec Rico. Là il aurait pu mettre éventuellement. Et j'adore parce que vraiment ils sont d'égal à égal tous les deux. On sent vraiment une pointe d'admiration de Zemmour envers Wauquiez. Wauquiez il jette à l'autre des compliments sur son livre, mais on sent quand même du tout qu'il est pas du tout impressionné, Wauquiez. Il est là en montant sa ceinture. Non, mais tu vois, il est vraiment top, ton bouquin. Et je dis, il s'en laisse pas compter, Laurent Wauquiez, quand même. Je dis, pour ça, chapeau. Et c'est vrai que c'est pas les personnalités les plus appréciées du PAF quand ils pensent Wauquiez et Zemmour. Ils se prennent quand même des tombereaux d'insultes à longueur de temps. Et là, je me dis, c'est fou. Ils réussissent à canaliser toute cette haine en amour mutuel. Et c'est vraiment dingue de regarder ça. Parce que je sais bien que ça aurait jamais pu vraiment arriver. Mais à un moment, je regardais la vidéo et je me suis demandé lequel des deux allait se jeter sur le pénis de l'autre pour le manger comme ça. j'étais là, c'est pas pour le lui dévorer. Je dis, attends, il fallait dévorer le pêche. Je savais bien que ça serait jamais arrivé. Mais avant, je me suis dit, c'est pas possible, ça va arriver, quoi. Voilà. Donc, en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup du combat Booba et Caris. Moi, je paierai jamais pour voir Booba et Caris se battre. Par contre, pour voir Wauquiez et Zemmour qui se tripotent, là, je donne mon rip, quand même. Hein, voilà. Alors, juste pour le plaisir, quand même. Allez, pour le plaisir, juste, on écoute un tout petit extrait une deuxième fois.
Ce qui a forgé ce pays, c'est le moment où t'as des grandes figures.
Exactement.
Un peu plus visionnaires que d'autres.
Exactement.
Exactement. Voilà. Voilà. C'est vraiment du nectar. Elle fait du bien, cette vidéo. C'est vrai qu'on voit tellement de violences gratuites et de haine sur Internet que là, ben moi, tomber là-dessus, ça m'a mis du baume au cœur. Et je m'attendais pas cette semaine à dire autant de bien de Wauquiez et Zemmour, mais ils m'ont ému. Voilà, donc tant pis pour Gabriel, mais merci quand même à Laurent et Eric.
Merci, t'as ma VDB. Vous avez des nuits passionnantes. Gilles Mervis, je voulais réagir.
Oui, pour dire moi du mal de Wauquiez, j'en dis un peu dans le livre. Non, mais quand il dit il faut du background pour comprendre ton livre, on voit tout ce qu'il pense de lui-même. Et je cite sa vie et son œuvre comme exemple d'illusion du mérite, voilà, parce que il a pu raconter, comme je l'ai lu dans quelques articles, qui venaient du Chambon-sur-Lignon, hein, du centre de la France,
du storytelling,
en disant c'est là que j'étais au petit collège. Et sa mère dit mais pas du tout, il était au collège dans le 7e arrondissement à Paris, donc il a fait les concours et là il a l'impression par son mérite, par son intelligence d'avoir gagné ses galons et il est certain de mériter tout ce qui lui arrive, ou pas d'ailleurs, je suis pas certain que tout ça lui réussisse.
Revenons pour terminer sur un point du livre, Juliette Arnaud, il nous reste une minute, est-ce que vous pouvez nous mettre en perspective une idée de sujet, une question?
Oui, en gros on est en train d'assister potentiellement, en tout cas avec BuzzFeed qui licencie, à la fin d'une époque. Vous êtes né en 74, donc vous venez d'une époque où le geek, c'était un petit gros qui sentait pas trop bon et qui joue à Pac-Man. Ensuite, Internet est devenu le monde et nous vivons depuis dans le mythe du geek suprême Steve Jobs, paix à son âme. Est-ce que ça y est, on est en train de rentrer dans l'ère du début, du déboulonnage de ce moment-là?
Ben, j'espère. Je pense pas être le seul à être... dans cette lignée. Quand j'ai écrit le livre, j'avais l'impression d'aller un peu à contre-courant, notamment parce qu'il y a tout un chapitre contre la mode du... Enfin, contre... En critique un peu à la mode du développement personnel, où finalement le bonheur ce serait de bien travailler
une bonne recette de cuisine
pour son entreprise, et puis ce serait une bonne recette de cuisine. Peut-être qu'effectivement ces gourous disparaissent un petit peu. On se rend compte que voilà, BuzzFeed là, c'était le modèle d'un journal collaboratif où il n'y avait pas de, où le patron s'entendait bien avec ses salariés, et puis on se rend compte que à la fin ça aurait été mieux d'avoir des syndicats, et que finalement les bonnes vieilles méthodes étaient peut-être pas les plus mauvaises. C'est comme quand on se marie puis qu'on se dit on va pas faire un contrat, on s'entend tellement bien. Oui, mais c'est pour quand tu t'entendras pas qu'il faut faire un contrat. Et là c'est peut-être un petit peu pareil.
Voilà pour on vous renvoie à l'ouvrage, hein, bien sûr, sur la vision de Steve Jobs et ses statues qui se déboulonnent peu à peu. Juliette Arnaud, quelqu'un est arrivé dans ce studio.
Oui, et je crois bien que c'est Fred Fromet. Fred Fromet.
Oui, bonsoir.
Alors c'est quoi aujourd'hui?
Eh bien c'est la loi anti-casseur qui m'a contraint à parodier les Forbans. Cette espèce de vieux groupe mort qu'on a vu chanter pour l'extrême droite.
Ah bon ? Ah oui.
Flic frappe quand le flic frappe. Oh, gratte-toi s'il t'attrape. Flic frappe quand le flic frappe. Il faut que tu t'échappes. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe comme une patate, quand le flic te mate comme un psychopathe. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style. On s'éclate à la grenade Gliev 4. Pour celui qui défile, vous l'aurez deviné, l'enjeu est difficile. Faut s'en sortir entier. Garderas-tu tes deux mains malgré la patrouille? Finiras-tu comme un crétin avec l'œil qui pendouille? Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, de s'amuser avec le LBD. On nous fait notre fête, on nous flingue au flashball, de préférence à la tête parce que c'est plus drôle. Pour celui qu'on éborgne, c'est comme une double peine d'avoir une nouvelle trogne comme celle du vieux Le Pen. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, quand il se lâche avec sa matraque, son bouclier, sa moustache. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, de viser au pif après 12 apéritifs. Dans la manif, ok, il y a aussi des casseurs, mais mon petit poulet, peut-être aussi ta sœur. Faites au moins une pause, dit
dites-vous des mots doux. Je délire, je suppose, pour que vous vous fassiez des bisous. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, que ça dérape. Comme Ben à la place de la contresse Carpe. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, de faire le beau en lançant des lacrymos. Il ne faut pas raconter des carabistouilles. Il vaudrait mieux instaurer la loi anti-casse-couille. Tout ça avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, que ça fait crack. C'est quand on se fait plutôt des smacks. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style. Faites des caresses et pas des CRS.
Oui, merci Frédéric Fromet.
Merci.
Et voilà le nouvel hymne des Gilets jaunes, parce qu'il y en avait un de Francis Lalanne, mais l'autre est meilleur. Merci Frédéric. Est-ce que vous jouez ce week-end?
Oui, à Mort-de-Bretagne dans l'Ille-et-Vilaine, demain, samedi.
Oh, très bien. Eh bien, bon voyage Fred Fromet.
Merci.
Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Verviche d'avoir passé cette heure avec nous. Donc je rappelle votre ouvrage, Peut-on réussir sans effort ni aucun talent, paru aux éditions Le Passeur. Vous reconnaîtrez la couverture, car il y a Einstein, version Warhol,
tout à fait.
Car vous basez aussi beaucoup sur la pop culture pour nous expliquer les concepts philosophiques. Merci à tous autour de cette table, merci Mélanie Boer, merci Christine Gonzalez, merci Thomas VDB et ses titres. Oui. Merci beaucoup Juliette Arnaud pour avoir travaillé cette émission avec moi aujourd'hui. Et puis merci à toute l'équipe, merci à Nathalie Romero, à Fabrice Rivaud, à Sarah Masson, à Ramzi Assadi à la préparation, merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, aujourd'hui à la technique qu'il y avait Stéphane Boja et Nicolas Delmas. Et c'est déjà la fin de cette émission. Et c'est aussi la fin du stage de 6 mois de notre stagiaire Paul Plumet, notre Polo. Qu'il en soit remercié chaleureusement pour tout son magnifique travail, sous-payé puisqu'il est stagiaire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a dit en quittant l'émission, Polo?
Ce moment est un peu pour moi comme une bénédiction, parce que je me dis que demain, je ne verrai plus vos têtes de con.